Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile et aujourd'hui en particulier, on va parler de Microsoft qui sort les gros calibres là. Ça rigole plus, ils en ont marre des autorités de la concurrence, en particulier les anglaises, et ils commencent à tirer des coups assez bien ciblés, on va en parler. On a aussi le Quest Pro, le nouveau casque de Meta, qui est pas vraiment gaming, donc on va vous dire un petit peu tout ça. Et puis les jeux auxquels on a joué, et puis quelques news en plus. Et pour m'accompagner dans cette formidable aventure, j'ai le plaisir de recevoir la délicieuse Escarina. Comment vas-tu?
Oh là là. Dis donc que je suis bien reçue. Je sais pourquoi je suis là, tu vois, quand il y a des intros comme ça. Je suis pas autant bien choyée dans d'autres émissions que nous nommerons pas. Au contraire, je suis même peut-être un petit peu maltraitée. Donc
ça compense, écoute, ça compense, tu vois, c'est le yin et le yang.
C'est ça, c'est difficile de dire que ça va mal après avoir été accueilli comme ça, Patrick. Donc j'ai l'impression qu'on est dans le même cas, un petit rhume de saison là qui reste au fond de la gorge, qui dit attention, je suis là, peut-être que je vais venir un peu plus fort, peut-être pas. Donc écoute, en ce moment je bois des tisanes au miel.
Très 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 bien, tu as tout à fait raison. Moi ça fait maintenant 2 semaines, je suis sur la fin, je suis pas complètement guéri, j'ai encore la toux qui reste dans le fond. Donc comme je disais au début de la maladie, il y a 2 ou 3 semaines, pour un podcasteur c'est parfait, mais ça va, c'est gérable.
Mais parce que quand tu dis je suis sur la fin, on pourrait comprendre autre chose.
Non, je suis sur la fin du...
que tu vas nous quitter.
Il y a un moment je me suis demandé quand même, j'ai même sauté un épisode, il y a un épisode que j'ai pas enregistré, donc vraiment ça voulait dire que c'était grave. Mais là, c'est ouais. Bon, on est remis, on va pouvoir parler de l'actu tech et on va pouvoir remercier WakaTP, Wakat, qui est le nouveau Patriote qui nous a rejoint. Il nous a rejoint dans la formidable famille des Patriotes en passant sur patreon.com/rdvjeu. Merci à toi. Tu es un héros encore plus héroïque que ceux de Overwatch. Oui, j'ai Overwatch dans la tête en ce moment. Et on remercie aussi Chablex, qui est un autre héros. En fait, Chablex, c'est un peu le tank, parce que c'est le producteur. Et puis, WakaTP, alors il faudra que tu me dises, Waka, si tu préfères être un DPS ou un healer. Moi, perso, je suis plutôt support, tu vois. J'aime soutenir l'équipe et leur permettre de faire ce qu'ils et elles font le mieux. Donc, voilà, tu me diras, WakaTP. En tout cas, tu fais partie de notre équipe. On est tous dans le rendez-vous jeu pour anéantir les forces du mal.
C'est vraiment un pseudo très années 90, WakaTP. J'imagine que ça fait clin d'œil à un indien dans la ville, pour les plus vieux d'entre nous.
Je sais, je me souviens même pas de ça du tout, quoi.
WakaTP Baboon, ça te parle pas, Patrick? Attends, j'espère que dans le chat, il y en a... Oh là là!
Je suis
ce monument du cinéma français.
Moi, je suis culturellement tellement à cheval sur plein. Il y a plein de gens qui disent si, mais oui. Je suis tellement à cheval sur plein de pays que la France, ma culture française en pâtit un peu. Ma culture populaire.
Est-ce que tu sous-entendrais que le cinéma français est en dessous des autres cinémas, Patrick ?
Je sous-entends que certaines œuvres du cinéma français puissent-elles avoir été majeures, n'ont pas eu une présence dans mon esprit aussi importante que peut-être chez d'autres Français. Tu sais, tous les standards, moi je les ai découverts assez tardivement, les trucs genre Les Bronzés, enfin tu vois, tous ces trucs-là. Par exemple, Les Nuls, oui, ça j'étais à fond. Les Inconnus aussi, mais il y a des parties qui m'ont échappé, quoi.
Donc c'est déjà pas mal.
Il y a quelque chose. Les Nuls, si tu commences à me parler de ces références là, oui, là ça va me parler. Donc il y a des choses à sauver, ça va, je sauve l'honneur un petit peu. Écoutez, on va commencer avec les grosses news de la semaine et une autre entité massive qui, je sais pas si c'est une autre entité massive genre comme moi, qui essaye de sauver l'honneur, c'est Microsoft, est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé en Angleterre qui fait perler des grosses gouttes de sueur sur le front de Phil Spencer avec l'acquisition d'Activision Blizzard ?
Absolument pas. Donc tu vas pouvoir me le. Alors bien évidemment l'acquisition d'Activision Blizzard, oui, mais la partie
mais
qui
avec
fait
le CMA, ouais. Bah écoute, c'est quelque chose d'assez rocambolesque. Ce qui se passe, c'est que les autorités de la concurrence anglaise ne sont pas convaincus que ça soit une super bonne idée d'autoriser ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, parce que ça pourrait avoir des conséquences négatives sur la concurrence. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'ils font des allers-retours et que ça dure.
Et on en avait parlé même à la dernière émission.
Tout à fait. Donc, ils avaient décidé d'étudier plus profondément l'acquisition. Eh bien là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont émis des avis préoccupés. Ce n'est pas un avis négatif qui interdit l'acquisition au niveau de l'Angleterre, mais qui émet des avis préoccupés sur les conséquences que ça pourrait avoir, et en particulier sur le marché du streaming, des abonnements et du streaming, et qui sont vus comme des marchés d'avenir. Et donc, leur préoccupation, c'est que, en particulier avec la prévalence de Call of Duty, comme on l'évoquait, et comme l'a beaucoup mis en avant Sony, eh ben, ça pourrait donner une force démesurée à Microsoft pour nuire à la concurrence du marché du jeu vidéo, en particulier sur console. C'est hyper intéressant parce que, excuse-moi, je vais d'abord,
la partie
intéressante, c'est la réponse de Microsoft, parce que quand on écoute ce que dit la CMA, c'est vrai qu'on peut se laisser, convaincre par l'idée que, bah oui, quand même, enfin, Microsoft, ils ont racheté Bethesda, ils sont en train maintenant de racheter Microsoft, enfin, Activision Blizzard, et puis, ils ont le Game Pass qui est en train de tout défoncer, et puis Xbox, c'est quand même énorme, etc. Et c'est pas faux, hein, tout ça. Mais les réponses de Microsoft, qui sont des arguments très choisis, hein, très spécifiquement calibrés pour sonner exactement comme il faut, eh ben, il faut avouer qu'ils sont quand même relativement convaincants aussi. Il y a Tom Warren sur Twitter qui a fait une sélection des réponses spécifiques. Je vais vous les lire maintenant et lire leurs arguments. Et vous allez voir que quand même, c'est pas du tout incohérent. Et ça nous remet un petit peu... parce que ce que fait le CMA, c'est un petit peu reprendre les arguments de Sony quand même, qui dit « Oh, ben enfin, vous vous rendez pas compte, Call of Duty, mais comment on va faire pour se battre si un jour Microsoft décide de ne plus avoir Call of Duty sur PlayStation, mais nous allons défaillir, c'est pas possible de faire quoi que ce soit. » Bon, alors... Ils remettent un petit peu, ils sortent ils deviennent agressifs, Microsoft. Là, on sent qu'ils en ont un petit peu marre. Alors, ce qu'ils disent, je vais vous donner les quelques arguments. D'abord, Sony est le plus gros consolier, la plus grosse plateforme de consoles depuis une vingtaine d'années. Ils ont une base installée de 150 millions de consoles, si on compte les PlayStation 4, peut-être les PlayStation 3 et les PlayStation 5, ce qui est plus que Nintendo, et plus du double de la base installée de consoles Xbox. Donc déjà, au niveau de la taille, ça se pose là. Sony peut se permettre, ils ont une base, ils disent pas qu'ils sont que c'est anticoncurrentiel, mais ils disent qu'ils ont une base installée tellement importante, et leur plateforme est tellement importante depuis tout ce temps-là, qu'ils peuvent se permettre de prendre des décisions qui reflètent leur puissance dans cette industrie, en faisant des choses comme par exemple, c'est un truc qui s'est passé il y a quelques semaines, augmenter le prix de leur console, alors que les deux autres ne l'ont pas fait. Microsoft et Nintendo ne l'ont pas fait. Et c'est vrai, Sony, bah, ils ont augmenté le prix de la console, genre, bah, on s'en fout, on va les vendre. Donc, rien à foutre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas les acheter? Si, vous allez les acheter. Et effectivement, c'est quand même un indice qui laisse penser que Sony se sent quand même à l'aise dans sa place de leader. Ils disent également qu'ils ont l'idée que ce leader pourrait être menacé par la perte d'un titre, c'est ridicule. Et c'est pas crédible. Ils disent pas c'est ridicule. C'est pas crédible. Et effectivement, peut-être que ça pourrait les affaiblir un petit peu, mais enfin, les menacer au point que ça soit un danger existentiel, faut pas exagérer non plus. Ils ont 4000 jeux sur PlayStation. Bon, ils sont pas tous aussi importants, évidemment. Et c'est clair, Call of Duty est très important. Ils disent également que selon les indications qu'ils ont, si tous les joueurs de Call of Duty passaient de tous les joueurs PlayStation de Call of Duty passaient de PlayStation à Xbox, malgré ça, la base de joueurs de PlayStation resterait significativement plus importante que celle de Xbox. Donc même si ce scénario catastrophe pour Sony se produisait, c'est-à-dire que Microsoft fait transforme Call of Duty en exclusivité pour Xbox, et tous les joueurs PlayStation se disent « Ah bah moi je ne suis là que pour Call of Duty, donc je passe sur Xbox », malgré cet événement, qui évidemment n'est totalement pas réaliste, eh ben le nombre de joueurs PlayStation resterait plus important que celui de Xbox. Donc là encore, il y a une certaine exagération. Ensuite, il y en a une certaine quantité. Hein. Depuis la transaction, l'annonce de la transaction entre Microsoft et Activision Blizzard, Sony a acquis plusieurs studios, dont Bungie, qui est quand même un studio important dans le domaine du jeu service et un studio important tout court. Et ils ont des deals avec From Software, avec d'autres, avec Epic. Enfin, ils ont des participations minoritaires, mais quand même des participations dans toutes ces sociétés.
Qui étaient d'ailleurs historiquement plutôt liées à Xbox qu'à la PlayStation, Bungie,
tout à fait, oui. Bon, ça date un petit peu, mais oui, effectivement. Microsoft dit également « Oh mon Dieu, nous sommes vraiment très, très, très mauvais dans tout le domaine des consoles et du jeu vidéo. Nous sommes les derniers dans le domaine de la console. Nous sommes septièmes dans le domaine du PC. Nous n'existons pas dans le domaine de la distribution mobile, etc., etc. » Donc, et en plus, ils ont dit qu'ils disent que garder Call of Duty sur PlayStation est monétairement et pour la confiance des joueurs quasiment une obligation pour eux. Bon, ça, on va le mettre de côté, mais l'idée que... Enfin, tous les arguments qu'ils avancent, moi, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à ce qu'ils ne me convainquent pas, enfin, à ne pas me laisser convaincre. Alors, évidemment, ils grossissent le trait, on va presque aller pleurer. Comme je disais, avec le site qu'ils ont ouvert il n'y a pas longtemps, on a presque l'impression qu'ils nous rendent service en achetant Activision Blizzard. C'est vraiment, non, mais nous, ça nous emmerde, mais on le fait pour vous, quoi. Vous aurez plus de choix, plus de machin, plus de... Ils mettent aussi beaucoup l'accent sur l'idée des abonnements, des services abonnements, et ils disent, Sony réduit le choix des joueurs parce qu'il leur donne pas le choix de choper leur nouveau jeu en prix plein, en individuel, ou en abonnement. Tu vois, eux, ils refusent de mettre ces jeux-là dans les abonnements, ils refusent d'avoir le Game Pass sur PlayStation, donc c'est eux qui restreignent le choix. Ce qui sont des arguments un petit peu plus, bon, un petit peu plus limite. Mais sur la taille de la PlayStation et le fait que ça ne va pas les enterrer, même si toutes les catastrophes annoncées se produisaient, j'avoue que ça me convainc un peu, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Oui, bon, après, c'est sûr que sur des trucs comme ça, on se doute qu'ils mettent les meilleurs éléments de leur équipe en termes de communication. Donc, ils vont toujours réussir à trouver les meilleurs arguments qui vont un peu te mindfuck. Et...
Enfin, moi, ils ont les avocats payés, tu sais, 800 $. Ouais,
quand j'écoute les réponses qu'ils apportent, moi, ça me fait penser à certaines, dans une autre vie, quand je travaillais dans le jeu vidéo, on avait dû faire aussi des communications. Moi, je travaillais dans les équipes de communication. On avait dû travailler sur des communiqués pour convaincre la communauté que ce qu'on était en train de mettre en place, c'était le bon choix pour tout le monde. Mmh. Oui, c'est des arguments difficiles à opposer. Moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui se passe si, parce que là, on parle de cet organisme qui est purement pour le Royaume-Uni. Si ouais. Eux, ils sont contre, admettons, ils mettent un avis défavorable, mais que toutes les autres institutions similaires dans le monde sont OK, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils peuvent faire un veto ?
C'est la merde. C'est-à-dire que officiellement, légalement, moi je suis pas avocat, donc je sais pas les conséquences que ça aurait, mais ça voudra dire que en Angleterre, Microsoft n'a pas le droit de racheter Activision Blizzard, et dans les autres pays, ils ont le droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a évidemment des sociétés en Angleterre qui gèrent ça, parce que l'Angleterre n'est pas dans l'Europe. En Europe, ça, c'est peut-être une seule société, mais du coup, enfin, et ces sociétés-là, elles font que l'édition, elles font pas... Tu peux te muter, on a un retour de son quand je parle.
Oh, pardon.
On a et du coup, je sais pas, ils devraient ne pas racheter uniquement pour l'Angleterre, garder les trucs séparés. Non, il y a une solution qui me paraît un petit peu compliquée, c'est de fermer Activision Blizzard en Angleterre, de pas vendre les jeux. J'en sais rien. Non, c'est très très compliqué. Il faut qu'ils aient les accords de tout le monde. À la limite, tu vois, si c'est un petit pays qui compte pas tellement, ils peuvent dire bon bah ok, on bosse plus chez vous quoi. Microsoft quitte, j'en sais rien moi. Tuvalu, tu vois, et il y a 300 personnes, c'est bon, ils vont pas en souffrir beaucoup. Mais l'Angleterre, non, il faut qu'ils réussissent à les convaincre. Moi, vas-y.
Non, je dis oui, effectivement, c'est compliqué, ça reste quand même un gros marché, en plus un marché anglophone, ce qui, mine de rien, a de l'importance. Mais après, voilà, ils ont posé des questions, ils leur ont donné des réponses, donc à voir si effectivement ça va les convaincre ou pas. Après, je connais pas trop l'importance des lobbies dans ce genre de commission. Est-ce que un billet bien placé au bon moment dans la bonne main peut changer la donne?
Ah non, ça change pas, non.
Donc ouais, c'est inquiétant parce qu'effectivement, enfin, le scénario que tu viens de dire, il est tout simplement impensable, il est pas réaliste quoi. Donc et puis on imagine que oui.
Alors le billet, je t'arrête tout de suite. Le billet, non, ça je pense pas. C'est pas le genre de chose à ce niveau-là. C'est très 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 contrôlé, en particulier dans une affaire. Enfin non, ça c'est pas possible. Moi, ce que je peux imaginer, c'est que parce que l'argument du CMA est très très centré sur la force que donne Call of Duty à Microsoft, et en particulier dans les domaines émergents de l'abonnement et du cloud, qui sont, c'est vrai, l'avenir. Et c'est pour ça que les arguments de Microsoft, pour moi, sont recevables, mais peut-être pas tout à fait, un tout petit peu à côté de la plaque, parce que ce dont parle le CMA, c'est pas la situation aujourd'hui, c'est la situation dans 10 ans. Et oui, la force que donne cette acquisition à Microsoft peut lui permettre de développer ses nouvelles plateformes, donc les plateformes Game Pass, donc l'abonnement qui est une plateforme, et le streaming qui est également en parallèle de ça. Donc c'est là que la préoccupation est forte. Moi, je pense que une des solutions que ça peut amener, enfin qui peut régler le problème, c'est que Microsoft dise bon bah on s'engage à garder Call of Duty sur toutes les plateformes pendant 15 ans. C'est un engagement fort. Alors, ils peuvent dire on s'engage à garder Call of Duty sur toutes les plateformes pendant 15 ans si on continue à le faire pendant 15 ans, parce que dans 15 ans, Dieu sait ce qui va se passer, ou équivalent. Et ça réglerait le problème. Voilà, c'est genre, parce que vraiment, ils sont centrés sur Call of Duty. Microsoft, évidemment, ne veut pas s'engager à ça, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus et c'est une contrainte importante. Mais je pense que, plutôt que de ne pas avoir l'accord du CMA, je pense qu'ils pourraient dire 15 ans, c'est peut-être beaucoup, mais je ne sais pas, 10 ans. Là, ils n'ont même pas dit de chiffres. Ils ont dit les quelques années, on a les contrats pour, on va dire, les 2-3 prochaines années. Je crois que c'est 4 ans max. Mais ils pourraient dire, on veut, bon, alors combien vous voulez ? 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui va vous satisfaire ? Tu vois, et le CMA peut pas dire, bah non, il n'y a rien qui va nous satisfaire, en l'occurrence, parce que c'est vraiment concentré sur Call of Duty. Donc,
et à même, raison, je pense.
D'autres jeux, quoi.
A raison sur Call of Duty, puisque c'est le premier jeu. C'est le jeu le plus fort dans les cercles.
Oui, je suis d'accord. Call of Duty a un point important. Et moi, je pense que ça va se finir avec ils vont devoir faire accorder quelque chose, lâcher un truc. Et ça risque d'être un truc comme ça, quoi. Donc, Tuvalu, c'est le pays, enfin, c'est un tout petit pays, mais ils ont le point TV, donc c'est assez connu. C'est pour ça que c'est pas inventé. Effectivement, après une concession, merci Dec Pascal. Oui, pardon.
Non, j'allais dire Tuvalu. Il me semble que ça fait partie des îles qui sont destinées à disparaître en premier avec la montée des eaux.
Oui, c'est ce genre de petits territoires. Et puis, comme le dit Dec Pascal, COD pendant 15 ans sur PlayStation, mais il marchera mieux sur Xbox. Tu peux toujours contourner les trucs, quoi. Donc, je comprends la préoccupation du CMA. Bref, voilà pour cette histoire. Bon, on verra, on continuera à suivre ce qui se passe. L'autre grosse news, c'est l'annonce du Meta Quest Pro, le nouveau casque de réalité virtuelle de Meta. Et là, vous pourrez vous dire, mais ça y est, la prochaine génération de VR est là. Qu'est-ce que ça va nous apporter comme truc incroyable pour nos jeux ? Eh ben en fait, pas grand-chose, voire rien du tout.
Ça va peut-être même nous retirer de l'argent, non ? C'est pas ça.
Mais non, même pas, parce qu'il n'est pas du tout destiné aux joueurs. C'est un truc qui est presque comme le HoloLens de Microsoft. C'est un outil qui est là pour les développeurs, pour les professionnels, et qui est prévu pour ce qu'il y a pour le jeu vidéo, peut-être pour montrer un petit peu ce que pourra donner la technologie dans 2, 3, 4 ans sur les nouveaux casques, parce qu'il y a des trucs comme une visière beaucoup plus fine avec des optiques vraiment resserrées, ils mettent la batterie derrière plutôt que devant, donc il est plus équilibré, les contrôleurs non plus le petit arceau, parce qu'ils ont des contrôles du placement grâce à des caméras dans les contrôleurs, donc ce genre de choses. Mais en pratique, c'est beaucoup réalité augmentée et réalité mixte, et ça fait très très peu de choses pour le jeu vidéo. Donc tous les arguments que vous avez vu passer, les commentaires, les hot takes, mais 1 800 euros, parce que oui, j'ai oublié de le dire, il coûte 1 800 euros, mais vous êtes fous chez Meta, mais enfin, qui va acheter ça? Mais c'est pas pour vous, les enfants. C'est pas du tout un casque gamer. C'est pas la suite du Quest 2. C'est pas le prochain casque gamer du tout. Donc, c'est à la limite, je le mentionne parce que je sais que vous en serez curieux, mais c'est pas du tout un casque qui est prévu pour la réalité virtuelle et de jeux vidéo comme peut l'être le Quest ou le Quest 2. Donc voilà, ça. C'est réglé. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même quelques annonces gaming, comme par exemple le fait que Meta a acquis la société Camouflage, qui était le développeur de Iron Man VR, qui était vraiment sympathique, Iron Man VR, auquel j'avais joué sur PlayStation VR il y a longtemps. Vraiment pas trop mal foutu. Et donc, ils continuent à se développer dans le jeu vidéo. Et puis, l'autre élément gaming de leur conférence, c'est le fait qu'il y ait un partenariat avec Xbox pour pouvoir jouer aux jeux Game Pass, donc les jeux streaming, directement dans les casques de réalité virtuelle. Donc ça concerne évidemment les casques Quest classiques, pas que le Quest Pro, et donc vous aurez genre un écran géant sur votre dans votre environnement VR, et vous pourrez jouer à ces jeux là en streaming dans votre casque de réalité virtuelle. Je suis sûr, convaincu, que la plupart des joueurs de jeux vidéo et de VR qui ont aussi un abonnement Game Pass, le truc dont ils rêvent, c'est de jouer dans leur casque avec un écran virtuel à leur jeu Xbox plutôt que de jouer sur leur télé. Ça, aucune interrogation là-dessus, n'est-ce pas?
Moi, je vois que dans le chat, il y a encore des gens qui questionnent pas l'existence de la VR, mais l'intérêt que les gens peuvent porter à la VR. Donc,
ça c'est une autre question.
Non, mais au final, ça résume quand même assez bien. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on est toujours un peu circonspect quand il y a de l'info qui sort sur la VR. On a encore besoin d'être convaincu. Après, est-ce que c'est ce genre d'usage qui va nous convaincre d'y passer? J'ai l'impression que non.
Alors, moi, je dirais que d'une part, le streaming dans la VR, ça va être un usage très anecdotique. À la limite, si t'as une toute petite télé et tu dis, je vais y jouer sur un écran virtuel géant, ok, bon, peut-être. Mais et le casque pro va pas non plus répondre à cette interrogation que tu évoques. La question aura une réponse beaucoup plus claire avec le PSVR 2 qui arrive dans quelques mois. C'est là qu'on aura une réponse à cette question. C'est pas avec ces annonces de Meta.
Oui. Donc. Mais on en revient toujours et encore et toujours à la même conclusion. C'est des discussions qu'on a déjà eues plusieurs fois ensemble. C'est que les gens ne seront pas convaincus tant qu'il y aura pas. Au-delà de l'usage, l'usage premier de ce casque-là, c'est quand même, enfin, des casques de VR en général, c'est quand même plutôt de faire du jeu vidéo. Et aujourd'hui, il n'y a pas de titre assez convaincant pour, à quelques exceptions près, on peut reparler d'Alix, etc.
Mais Beat Saber, il y en a qui sont bien. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui adorent le jeu vidéo en VR. Hein. Je ne veux pas les oublier parce que sinon ils vont m'envoyer des mails énervés. Mais il y en a.
Oui, mais c'est une niche.
C'est une niche, ça c'est sûr, oui.
Voilà, donc il y a encore du chemin à faire, quoi.
il y a du chemin à faire et à mon avis, c'est le PSVR 2 qui va nous voir s'il peut nous convaincre ou pas. Et donc,
ouais, mais je suis assez comme toi là-dessus. Je suis assez curieuse et je me dis aussi que c'est peut-être l'accessoire, enfin le périphérique qui pourrait me faire passer à la VR. Donc,
croisons les quelques mois.
Mais tu vois, on voyait, il y a quelques années, on se disait le VR, c'est le futur du jeu vidéo.
Non, mais plus ça va. Enfin, si, il y a des gens qui ont dit ça, mais.
Non, mais tu peux regarder, même, on va dire, dans l'inconscient collectif, la VR, c'est le futur du jeu vidéo. Tu regardes, comment ça s'appelle, Ready Player One, et tout comme ça.
Faut pas confondre les films de science-fiction et l'inconscient collectif. Il y a effectivement une place pour la réalité virtuelle dans l'inconscient collectif dans le jeu vidéo. De là à dire c'est le futur du jeu vidéo, c'est quand même un pas que moi je ne passerai pas. C'est de l'hyperbole qui est quand même un petit peu facile et souvent qui se trompe au final. Mais oui, enfin, oui. Disons que on pensait effectivement que la VR prendrait une place plus importante dans le jeu vidéo avec la poussée de l'Oculus il y a quelques années. Ce qui est clair, c'est qu'on n'y est pas encore et on ne sait pas si on y arrivera. Mais je suis d'accord, certes, on pouvait imaginer que ça prendrait plus de place et ça ne s'est pas produit. Ça, c'est vrai. Futur et SF, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est ça.
Oui, ouais, bien sûr. Et encore une fois, quand je dis l'inconscient collectif, c'est pour le grand public. Je pense que nous, on sait un peu plus, on a un peu plus de connaissances et effectivement, on n'ira pas forcément dans cette voie-là, mais je pense quand même que effectivement, dans pas mal d'œuvres SF, et si t'en parles aux gens qui sont un peu moins dans le jeu vidéo, tu peux penser que le avoir un casque sur la tête, c'est le futur du jeu vidéo, d'être dans sa bulle, d'avoir des trucs haptiques, etc. Et je pense que on est beaucoup à souhaiter ça, avoir l'expérience la plus immersive possible. Et peut-être qu'on a effectivement une attente très haute concernant la VR, des attentes qui sont très probablement justifiées et qu'aujourd'hui on a encore du chemin à faire et qu'on est toujours un peu déçu et donc on est toujours très méfiant et circonspect dès qu'il y a des choses qui se présentent, quoi.
C'est sûr. Là où effectivement il y a un truc avec lequel je suis d'accord et que tu dis très bien, c'est la question de l'immersion, parce qu'effectivement la VR c'est un petit peu, enfin le jeu vidéo va vers plus d'immersion depuis sa création, ça c'est vrai. Et la VR, c'est une étape importante supplémentaire dans l'immersion. T'as tout à fait raison là-dessus. Moi, je crois que cette idée, ce concept, en fait, on n'y est pas encore et on n'y sera pas avant 5, 10, 15, 20, peut-être 50 ans, tu vois. Et si on regarde à ces horizons-là, oui, là, peut-être qu'on peut penser que ça représente une part très importante du futur du média. Mais on n'y est pas encore, quoi. Tiens, puisqu'on parle de streaming, est-ce que tu as vu les annonces de Google sur les Chromebooks ? Ils ont fait une annonce absolument... Enfin, ils ont fermé Stadia la semaine dernière. Cette semaine, ils mettent en avant les Chromebooks spécial streaming de jeux vidéo. C'est un peu... Bon, bref, c'est Google.
On en revient à la communication qui va dans le sens du marketing ou inversement, mais oui, ça fait il faut bien qu'ils vendent le plus de machines possible et qu'ils essayent de s'adresser.
Bah les joueurs jouent les Chromebooks, c'est pas idéal pour jouer aux jeux vidéo parce que c'est des machines très légères. Là ils mettent en avant effectivement GeForce Now, Luna, Xbox Game Pass. Ils avaient quand même, je crois que c'est MKBHD qui disait je suis content que Google croit tellement à l'avenir du streaming.
C'est ce que j'allais dire, ils auraient pu faire peut-être qu'ils avaient prévu de les vendre avec un abonnement Stadia, on sait pas, hein.
Oui, c'est possible.
Du coup ils ont dû changer.
Il y a aussi deux choses, tiens, je sais plus où je l'avais mis, mais Phil Spencer avait publié une photo de son bureau et on pouvait voir dans le bureau un prototype du projet Keystone, qui est la Xbox de streaming. La Xbox, il fait que du streaming. C'était marrant. Ils ont dit c'était un prototype. Ils ont déjà dit que le projet existait et que c'était un prototype un petit peu ancien. Et puis, il y a aussi une autre machine de streaming, décidément. Le streaming, c'est l'avenir du jeu vidéo. C'est Razer qui a annoncé la semaine dernière, je l'avais dans les notes de la semaine dernière, on n'en a pas parlé, qui a annoncé une machine de streaming, le Razer Edge 5G, qui est aux États-Unis en particulier, partenariat avec Verizon, un fournisseur de services, qui est une machine de streaming et qui peut se connecter en 5G, contrairement au truc de Logitech qui se connecte en Wi-Fi. On n'a pas beaucoup de détails sur la machine, hein, pas de détails techniques. Ils ont juste annoncé le truc genre voilà, vous allez voir, ça va être trop cool. Je suis pas convaincu que ça soit beaucoup plus intéressant. Enfin, ça l'est forcément parce que machine de streaming, pouvoir se connecter de n'importe où, c'est cool. Mais avec Verizon, ils vont pas vous le filer gratuitement, donc il faudra payer un abonnement. Payer un abonnement en plus juste pour une console en streaming, machin, je suis... Enfin bon... pas convaincu que ça soit une machine qui aura un gros potentiel.
Ouais, après c'est vrai que Razer, moi je connais moins bien les usages autour de ça en Asie, mais vu que Razer est une boîte asiatique à la base, est-ce que c'est du coup plutôt un usage qui s'adresse à d'autres types de cultures autour du jeu vidéo, je sais pas. C'est vrai que nous on a un peu cette culture du jeu vidéo à la maison qui impliquerait plutôt qu'on utilise du Wi-Fi. Je sais pas trop dire, je suis un peu comme toi,
Je suis pas sûr que, parce que là-bas, ils jouent effectivement beaucoup sur téléphone, mais jouer en streaming, est-ce que c'est, tu vois, est-ce qu'il y a des recoupements entre jouer sur téléphone et jouer en streaming? C'est vrai qu'ils ont peut-être moins de grosses machines, moins de gros PC, donc peut-être que le streaming leur convient mieux, mais en même temps, c'est très cher. Je suis pas convaincu que ça soit au niveau du prix adapté à des marchés où le prix est plus est une préoccupation plus importante, donc
ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est des produits assez luxueux qui sortent de cette entreprise là en général, hein, donc
et puis il faut payer l'abonnement 5G et puis il faut payer l'abonnement au truc, enfin bon, donc bah voilà, écoutez, pour nos news importantes de la journée, on va continuer avec les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Mais je voudrais vous dire, vous savez que vous pouvez vous aussi participer au rendez-vous jeu. De quelle manière? En soutenant l'émission sur Patreon. Si vous appréciez ce qu'on raconte, si vous appréciez nos élucubrations, notre humour sans pareil, nos analyses pointues et justes, eh bien vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu et vous dire... Bah oui, moi j'aime bien Patrick, donc je vais lui filer quelques sous. Sachez que c'est grâce à vous que cette émission existe. Sans vous, l'émission, je crois, aurait peut-être été un petit peu plus compliquée à faire. Donc si vous appréciez et que vous voulez soutenir les créateurs que vous appréciez, c'est peut-être le moment de se lancer. Pour moi, mais peut-être pour d'autres, hein. Il y a peut-être d'autres créateurs que vous appréciez. Vous dites, bon, je vais mettre de côté quelques euros, une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, ce que vous voulez. Et puis soutenir quelques créateurs, peut-être Patrick et d'autres, sur Patreon. Donc vous créez votre compte Patreon et vous attribuez les montants aux émissions que vous appréciez. Et puis voilà, c'est super simple, ça va vite et ça aide énormément pour garder une création indépendante et forte. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Patreon.com/rdvjeu.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escarina, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de Immortality?
Avec grand plaisir. Donc, Immortality, c'est un jeu qui est sorti il y a 2 semaines à peu près, un petit peu moins, je ne sais
plus. Même un petit peu plus. Je sais que Jika, qui nous disait la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, il commence à sentir bon le GOTY Immortality. Hein. Jika nous disait, c'est peut-être son GOTY cette année. Mais oui, donc, c'était...
Oui, autant pour moi. Il est sorti fin août. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai commencé à y jouer il y a une paire de semaines que je me suis dit que ça c'était sorti à moins longtemps. Donc oui, le dernier jeu de Sam Barlow, je vais faire vite si effectivement JK en a déjà parlé. Donc moi j'y ai joué sur le Game Pass puisqu'il est dispo sur le Game Pass, ce qui est plutôt chouette.
Et même en streaming, donc on peut y jouer de n'importe où.
Ah, tu vois, en 5G ou pas ?
Alors, je dis ça parce que je suis sur mon Mac, donc je peux pas y jouer, tu vois, j'ai pas de PC ou de Xbox, donc je pourrais y jouer si je jouais pas à d'autres choses.
Alors bon, c'est un jeu indé qui a la patte du jeu indé, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est complètement atypique pour ceux qui ont déjà joué au jeu de Sam Barlow. Donc c'est le créateur qui avait fait Her Story et Telling Lies. Et donc en général, c'est à chaque fois, ce sont des jeux qui sont basés sur de la capture vidéo en live, c'est-à-dire de la vraie vidéo avec des vrais acteurs.
Il y a un côté 3DO, c'est fou, c'est le futur, ça. C'est ça le futur du jeu vidéo en fait.
Exactement. Il y a un côté, je trouve, un peu kitsch dans ces jeux-là. Tu sais, moi, ça me fait penser aux vieux jeux de, je sais plus, c'était Lucas Game qui faisait ça il y a des années de ça, avec des prises de vue, les jeux comme Myst, tu sais, qui faisaient des prises de vue.
C'est pas Lucas, mais oui, il y en avait quelques-uns.
Il y en avait quelques-uns et il y a toujours un côté un petit peu étrange, je trouve, qui est d'autant plus présent dans celui-là parce qu'on a vraiment l'impression de jouer à un jeu de David Lynch. En fait, il y a un côté très lynchien dans ce jeu-là. Le concept est simple. En fait, vous avez devant vous, vous commencez le jeu, vous avez une dizaine, je crois, d'extraits vidéo qui, en fait, partent tous de la carrière d'une actrice qui s'appelle Marissa Marcel, une jeune actrice qui a eu une carrière qui aurait pu être brillante, mais qui a été fulgurante puisqu'elle n'a fait que 3 films, 2 dans les années 70 et 1 à la fin des années 90. Et donc, il y a un gros trou entre les années 68-70 où elle a fait ses 2 premiers films et son dernier film de 1999. Donc il y a un mystère qui entoure cette actrice. On essaye de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un trou comme ça de plusieurs dizaines d'années entre ses premiers et ses derniers films, alors qu'elle aurait dû être promise à une grande carrière d'actrice. D'ailleurs, on peut au passage souligner la prestation de la véritable actrice derrière ce jeu-là, parce que c'est vraiment, enfin, au global, le casting, mais en particulier la concernant elle, est plutôt bien. Et donc, pour faire ça, donc vous avez des extraits de vidéos qui défilent devant vos yeux, et en cliquant avec la souris sur des éléments de la vidéo, ça peut être un élément de décor, ça peut être un acteur, en fait, vous allez découvrir de nouvelles vidéos d'archives. Donc ça reprend un petit peu le mécanisme des anciens jeux de Sam Barlow où pour découvrir de nouveaux extraits vidéo, il fallait taper des mots-clés dans une console. Ben là, en fait, on tape pas des mots-clés, on clique sur des éléments de l'image qui vont venir, par association d'idées, vous faire découvrir de nouveaux extraits vidéo. Quoi. Ouais, bah d'autant plus, on va dire, il y a un côté très intuitif en fait dans la prise en main du jeu. Et du coup, bah au début,
c'est une question que j'ai jamais posée. Est-ce que quand tu passes la souris sur les éléments vidéo, tu sais que là il va y avoir un truc derrière quand tu peux cliquer, ou il faut vraiment
ouais,
que
tu tout à fait.
Et tu... D'accord.
Non, en fait, on vient de le voir sur la vidéo que t'es en train de passer, ta souris se transforme en œil, le curseur se transforme en œil quand l'élément sur lequel tu passes est interactif et va t'ouvrir vers une nouvelle vidéo.
Mais c'est hyper simple, en fait, du coup. Il suffit de passer la souris partout et puis dès que tu vois un truc, tu cliques et t'avances. C'est pas un walking simulator, mais c'est un viewing simulator. C'est juste que tu vas voir...
En fait, il y a un côté... Ouais, c'est exactement ça. Au début, il y a un côté un peu frénétique où, alors, comme souvent avec les jeux de Sam Barlow, tu sais pas trop ce qu'il faut faire. C'est un jeu où t'es pas du tout guidé. C'est quasiment expérimental. Hein. On est entre l'œuvre interactive et le jeu vidéo. On est un peu entre les deux, donc ça peut être un peu déroutant si vous n'avez jamais fait un jeu de Sam Barlow ou si vous avez du mal à vous écarter des sentiers et d'aller vers les jeux un peu indés. Ça peut être très déroutant. Donc au début, on clique partout, ça ouvre plein de nouvelles vidéos et en fait, au fur et à mesure, on va tomber sur des... Alors, il y a des extraits de films, il y a des extraits où elle se fait interviewer sur des plateaux télé, il y a des extraits un peu de making-of, ça mélange plein de choses, en fait. C'est des extraits vidéo qui viennent un petit peu partout. Et en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez donc découvrir d'extraits vidéo, et plus vous allez essayer de reconstituer ce qui a été la carrière de cette actrice. Et en fait, au fur et à mesure... Alors, on peut pas spoiler parce que il y a vraiment un gros effet de surprise dans ce jeu qui en fait tout l'intérêt. Mais vous allez vraiment tomber dans quelque chose de très inquiétant, un peu sombre, même un peu complètement, même fantastique. C'est pour ça qu'il y a vraiment un côté lynchien très fort dans ce... dans ce jeu-là.
Pourquoi est-ce que je passe mon temps sur Overwatch? J'aurais pu le finir 4 fois si je m'étais aimant. Bref, vas-y.
C'est une œuvre à part entière, vraiment. Moi, je dirais, jouez-y avec des écouteurs. Moi, j'ai joué sur clavier-souris, mais j'ai lu à plusieurs endroits qu'on conseillait plutôt d'y jouer avec la manette, parce qu'a priori, il y a des effets de vibration à certains moments du visionnage de vidéo qui est particulièrement important dans le gameplay global du jeu. Là, pareil, je resterai assez évasif pour ne pas spoiler. Donc jouez-y avec le casque vissé sur les oreilles, dans une pièce noire, sombre, seule, avec votre petite manette. Et si vous aimez bien les œuvres comme ça, à la Lynch, un peu inquiétantes, où on se fait notre propre compréhension de ce qu'on a sous les yeux, je pense que vous allez beaucoup apprécier ce jeu qui n'a nul autre pareil, en fait. Hein. C'est vraiment... C'est un ovni dans la scène vidéoludique, quoi, mais en parfaite continuité avec ce qu'il avait fait avant.
C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est hyper différent de ces jeux précédents ou
Non, on reste un petit peu dans le même concept avec ce côté. On démarre avec quelques vidéos et en fait, il faut par un biais ludique faire grossir sa bibliothèque de vidéos. Puis en visionnant toutes ces vidéos, au fur et à mesure, on se construit sa propre histoire, où on comprend, il y a des éléments qu'on nous donne pour comprendre. Mais en fait, c'est toujours un peu bizarre ces jeux-là, parce qu'il y a un début, mais il n'y a pas vraiment de fin. La fin, elle s'arrête quand toi, tu te dis, moi, je pense que j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris l'histoire qu'on essaye de me raconter. Moi, j'ai arrêté le jeu, je pense que j'avais pas découvert toutes les vidéos. Mais je crois qu'il y a quasiment 200 extraits vidéo. Donc, c'est des extraits assez courts en général, hein, qui peuvent durer quelques secondes, tout au plus une minute, deux minutes, quoi. Donc, c'est vraiment une expérience très déroutante. Aimer le jeu indé, avoir l'esprit assez ouvert. Je pense, je répète le terme de Lynchien, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas très grand public ce que fait Lynch. Moi, la première, je suis pas une grande fan de ces univers-là un petit peu inquiétants, mais il faut reconnaître que c'est une expérience original, enfin, que vous trouverez nulle part ailleurs, en tout cas dans son gameplay. Et les seules ressemblances qu'on aurait pu trouver, c'est sur les précédents jeux de Sam Barlow. Donc voilà. Écoute, je suis pas étonnée qu'il y ait eu un tel engouement, on va dire, autour de ce jeu-là.
À chaque fois que quelqu'un m'en parle, je me dis mais il faut que j'y joue. Et j'ai l'impression, en plus, il est court, hein, c'est 4-5 heures. Enfin, après, tu peux t'arrêter peut-être plus tôt ou plus tard, mais.
Oui, ça dépend du temps que tu veux lui donner, mais potentiellement, effectivement, c'est un jeu que tu peux faire en 2-3 soirées, je dirais.
Et à chaque fois, donc, je me dis, j'ai envie d'y jouer, mais j'ai l'impression, je vais vers la facilité ou peut-être l'envie un petit peu plus. C'est pas un jeu vers lequel je me dirige naturellement, et pourtant, tout le monde m'en dit tellement de bien. Il faut que je le teste à un moment, quoi. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'étais en train de faire... Tu peux te remuter, on a un petit retour.
Pardon.
C'est étrange, d'habitude, ça le fait pas d'ailleurs. Donc, bon, bref.
Mais oui,
C'est bizarre. Mais donc, moi, ce que je fais plutôt, c'est du Overwatch 2, encore. Il y a quelqu'un qui disait dans la chatroom, on va parler d'Overwatch 2 pendant 6 mois, c'est pas impossible, hein.
Mais c'est bien, parce que moi, j'ai essayé d'y jouer, j'ai pas réussi, donc je vais écouter attentivement tout ce que tu vas raconter.
Est-ce que t'as eu des problèmes de connexion au lancement?
Bah oui. Des files d'attente interminables des éjections. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit je vais attendre quelques jours / semaines, le temps que ça se calme, et je reviendrai après.
Alors écoute, pour les problèmes de connexion, ça semble réglé. En tout cas, moi, ça fait des jours et des jours que j'ai plus eu de soucis. Il reste quelques bugs. Il y a des gens qui disent, et même dans notre Discord, des gens qui s'en plaignent beaucoup, qu'il y a des quêtes, des missions qui se resettent aléatoirement. Moi, j'ai pas du tout eu ce problème. J'ai fini toutes mes missions, j'ai fini tous mes trucs. Je suis niveau 30, plus de niveau 30 dans le Battle Pass. Enfin, vraiment, j'ai pas mal joué. Mais là, vous vous dites, mais enfin, Patrick, tu n'as pas ton PC, donc comment tu fais pour jouer en ce moment? Je joue sur console. J'ai la Switch qui est là, donc je peux jouer sur console. J'ai la PlayStation pour le travail, hein, tout ça. Et du coup, j'ai joué sur console pour la première fois de ma vie sur Overwatch. C'est une expérience qui est particulière, hein. C'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'encore plus que sur PC, il y a des gens qui découvre le jeu, en fait. Je crois que avec son passage free to play, il y a beaucoup de gens qui se sont dit sur console, je vais le lancer et puis voir ce que ça donne. Et donc, les gens découvrent, et bon sang, on est, moi j'ai l'impression de revenir en 2016 quand tout le monde débarquait sur le jeu. Et vous savez, Overwatch, c'est un jeu donc par équipe, maintenant 5 contre 5, mais pour gagner une partie, faut pas tuer les adversaires. À la limite, ça c'est accessoire, c'est une conséquence presque secondaire du but de la partie. Le but, c'est de capturer l'objectif. Alors de rester sur le camion qu'on doit pousser pour qu'il avance, ce genre de truc. Et ça, quand tu commences le jeu, je vais pas dire que c'est que les autres, parce que peut-être que moi aussi je m'en préoccupais pas tellement à l'époque, même si j'ai l'impression que j'ai très vite compris, mais les gens en fait comprennent pas du tout, et au début, pendant tes premières heures de jeu, tu vas juste courir vers les adversaires et essayer de les taper. Et donc, quand tu sais un petit peu comment jouer, tu te dis, mais le payload, il est là, les gars, mais revenez là. Et t'as le payload, donc qui est le truc que tu dois pousser pour gagner, qui avec, où il y a personne, et tu as les tanks qui se précipitent vers l'équipe adverse tout seul. Enfin, bon, bref, c'est rigolo. Oui, pardon.
Oui. Ouais, j'allais dire, ce que t'es en train de raconter là, moi je joue à Overwatch depuis sa bêta, et j'avais l'impression de continuer à le vivre quand même sur la fin. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont jamais compris. C'est toujours le côté un peu agaçant de jouer avec des gens que tu connais pas, hein, après de jouer avec des PU. Donc, bon, si c'est encore plus présent là au lancement, ça me rassure.
Non, mais disons que c'est la blague récurrente. Tout le monde dit, ah, mais le payload, tout le monde s'en fout, personne n'est jamais dessus. Et c'est une image qui reste du début. Il faut avouer que quand même, quand les gens comprennent comment jouer, le niveau change, enfin, le niveau de compréhension du jeu change vraiment. Oui. Et je sais qu'on aime plaisanter et dire, ah, mais personne n'est jamais. Mais concrètement, au bout de quelques mois, bah, les gens savent qu'il faut, au moins le savent, peut-être qu'ils vont pas le faire, mais ils savent qu'ils vont rester sur le payload. Là, et même si on a l'impression que personne le fait jamais, là, on revient au début du jeu, ou simplement, enfin, on aime se moquer des gens et dire « Ah, mais ils sont nuls, moi je suis super bon, les autres ils sont super pourris, machin. » Mais c'est juste que les gens ne savent pas comment le jeu fonctionne, donc faut un moment pour apprendre. Même si on te le dit, il faut que tu l'expérimentes toi-même dans le jeu pour vraiment le faire. Donc là, sur console, encore plus que sur PC, c'est assez impressionnant. Et pourtant, sur PC, j'avais l'impression que c'était le fond du fond, dont je fais partie. Moi, je suis très, très mauvais. Je me rends compte que j'ai complètement perdu toutes mes connaissances. J'ai trop joué en Random Heroes. Mais là, vraiment, sur console, c'est spectaculaire, quoi. En plus du fait que pour viser, tu sais, je suis pas du tout un snob du PC, hein. Mais je joue, par exemple, sur Destiny, sur console, depuis le lancement du Destiny, et je préférerais jouer sur PC, mais j'ai tellement l'habitude sur console, c'est ce que je fais, et puis je suis tranquille, détendu, assis dans le canapé, tout ça. Mais sur console, je comprends pas comment jouer à Overwatch, quoi. J'arrive pas à viser, j'arrive pas à... C'est hyper compliqué, même si le jeu est très bien foutu. C'est compliqué pour moi de viser à la manette, de la même manière que les PC Master Race le disent d'habitude. Et je dois avouer que c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même jeu, donc... bref. Mais c'est rigolo, quand même.
Alors moi je me pose la question parce que j'ai pas encore pu mettre la main sur le jeu, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc moi j'avais Overwatch 1, donc je vois bien que sur ton interface Blizzard, Overwatch 1 n'existe plus et est remplacé par Overwatch 2. Donc moi j'avais payé mon jeu Overwatch 1 à la licence, au lancement. Donc là j'en déduis que je n'ai pas payé Overwatch 2 parce que j'ai payé Overwatch 1, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait le multi qui était gratuit et le solo qui était payant. Enfin, je suis un petit peu perdue, j'ai pas eu l'opportunité du coup d'aller essayer d'y voir plus clair. Donc est-ce que tu peux nous expliquer
Tout à fait. Alors effectivement, c'est un petit peu compliqué, le développement et les décisions sur Overwatch 2 ont été compliquées. En gros, le jeu est gratuit. Overwatch 2 est gratuit pour le multi et pour le co-op, mais le co-op ne sera dispo qu'en 2023. Donc en pratique, la version d'Overwatch qui existe aujourd'hui, c'est Overwatch 2 PVP. Donc multi-compétitif, qui est gratuit, auquel tout le monde a accès, Et du coup, bah, il n'y a rien à payer. Même si tu voulais, tu peux payer genre le Battle Pass, mais t'as pas besoin de, enfin, tu n'as pas besoin de payer pour jouer. Par contre, comme tu as Overwatch 1 sur ton compte, eh bah, ben, tu auras accès directement sans payer au nouveau, au troisième nouveau personnage, en plus des deux qui sont, des deux premiers qui sont accessibles pour tout le monde. Donc, les trois personnages seront dispo gratuitement pour toi. Là où, pour les joueurs qui créent un compte aujourd'hui, il y a un de ces personnages qui n'est accessible que dans le Battle Pass. Donc soit tu payes le Battle Pass et tu l'as tout de suite, soit tu le payes pas et il faut grinder jusqu'au niveau 25, jusqu'au niveau 55 du Battle Pass, ce qui prend 3-4 semaines pour l'obtenir, ce nouveau perso. Donc en gros, tu lances le jeu comme si c'était Overwatch 1, tu vas voir que tu seras pas énormément dépaysé. Le plus gros changement, c'est que c'est 5 contre 5 au lieu de 6 contre 6, donc tu as un seul tank, et ça ouais, change quand même l'approche du gameplay. Mais, ouais, mais en gros, c'est Overwatch 1 plus, quoi.
Oui, j'ai des amis qui, eux, ont réussi à se connecter, à jouer, et je sens que, je sais pas toi ce que t'en penses de ce rééquilibrage à 5 contre 5. Eux, je les sens un petit peu... Alors, déstabiliser, ça c'est certain, mais pas forcément dans le bon sens. Et c'est vrai que, j'ajoute juste à ça avant de te laisser répondre, que quand t'as pris des habitudes pendant des années de jouer en équipe de 6, ça fait un petit peu, bon bah alors, tu sais, c'est la courte paille quoi. Alors, lequel d'entre nous le... C'est un peu cruel quoi.
C'est sûr, c'est sûr. Bah, le truc, c'est que comme on en parlait, je vais le faire rapidement parce qu'on en parlait la semaine dernière, c'est une décision qui est drastique, mais qui était importante pour la santé et le dynamisme du jeu, parce qu'ils arrivaient, enfin, avec deux tanks, et c'était comme ça que s'était installée la méta, avec deux tanks, ça rendait les choses vraiment compliquées pour avoir un jeu dynamique. Il y avait trop d'arrêts au mouvement, aux attaques dans le jeu. Et avec un seul tank, effectivement, ça change beaucoup parce que les DPS ont plus d'opportunités d'aller dans la backline. Les soigneurs peuvent toucher leur équipe plus facilement parce qu'il n'y a pas les tanks en face qui bloquent, etc., etc. Pareil pour les DPS, tu peux viser plus facilement les équipes d'en face parce qu'il n'y a pas les gros tanks qui vont t'arrêter. Ça change la manière d'appréhender le jeu, mais ça le rend beaucoup plus dynamique et il faut s'y adapter, okay, quoi. Moi, je pense que la majorité des gens, sur cet aspect précis, le passage en 5 contre 5, la majorité des gens qui ont joué trouvent que le jeu est plus sain dans cette forme que dans la forme précédente. Mais bon.
Ok, très bien. Eh ben, écoute, j'ai hâte de le vérifier et d'en reparler avec toi la prochaine fois.
Écoute, tu peux lier tous tes comptes ensemble, donc tous tes comptes console, PC, tout ça, et il est gratuit, tu peux le télécharger partout, donc...
Ah ben c'est déjà fait, tu sais, il est prêt. J'ai essayé juste de le lancer, malheureusement.
Là, ça devrait
être. Réussi. Oui, je l'ai fait. Là, pendant que tu étais en train de parler, j'ai réussi à le lancer. Donc, je te ferai ça très vite.
Et entre parenthèses, pour s'excuser de tous les problèmes qu'ils ont eus pendant le lancement, il y a beaucoup de gens qui disent lancement catastrophique, lamentable, c'est la Bérésina, machin. Moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Il y a effectivement eu des gros problèmes de connexion les 2-3 premiers jours. Mais depuis, il n'y a plus de problème de connexion. Là, il y a les questions de mission qui se reset, ça c'est un problème. Mais bref, pour s'excuser de tout ça, ils vont donner un skin et un, comment ça s'appelle, un memento, un petit, comment dire, c'est le truc de porte-clés que tu peux mettre sur tes armes là. C'est un petit peu ridicule.
Oui.
Mais bon, ils vont enfiler un gratuit et surtout, il y aura des week-ends double XP vers la fin octobre. Des week-ends double XP pour compenser le fait de ne pas avoir pu jouer, donc vous pourrez faire monter votre Battle Pass. Bon, voilà, ils vont essayer de se faire pardonner. Moi, je pense que d'ici quelques mois, plus personne parlera de ce lancement compliqué, qui a effectivement été très compliqué, mais le jeu, et je tweetais hier, Overwatch 2, c'est un très bon jeu.
Je pense que ces gens-là n'ont pas assisté au lancement de Diablo 3.
Bah, tu sais, le lancement de Diablo 3, pour l'avoir vécu de l'intérieur, il garde une image absolument catastrophique. La réalité, c'est que les problèmes de concession, les problèmes de connexion ont duré 3 jours. les vrais, à 3 jours environ, après, il y avait des petits problèmes par-ci par-là, mais les vrais problèmes, c'était 2-3 jours. Le vrai problème de Diablo, c'était le design du jeu qui faisait que on ne réussissait pas à obtenir les objets qu'on voulait. Mais les problèmes de lancement, c'était pas aussi dramatique que les gens le gardent dans leur esprit, quoi.
Ouais, je me rappelle qu'il y avait eu des t-shirts de fées avec la fameuse erreur, là, je ne sais plus combien.
C'est quoi, 37, 47 47. comme le fait remarquer la chatroom, c'est des compensations qui coûtent absolument rien à Blizzard. Et c'est vrai. C'est pas que. Mais en même temps, alors qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils pourraient offrir le perso, le nouveau perso à tout le monde. Ils pourraient offrir le prochain Battle Pass. Ou offrir.
Ça leur coûte rien, mais le jeu est gratuit. Donc.
C'est ça, c'est ça. Ce qu'ils pourraient faire, c'est offrir des crédits, par exemple. Dire, ben, on vous file 500 crédits. Comme ça, si vous grindez 500 crédits en plus, vous pouvez avoir ce qui est super dur. Hein. Ça, entre parenthèses, j'en parlais la semaine dernière, c'est impossible d'avoir autant de crédit, le maximum de crédit, mais bon, c'est compliqué pour eux aussi de filer un truc qui soit oui, c'est vrai que ça leur coûte pas grand chose là, ils pourraient filer des crédits, c'est vrai, ils pourraient filer des crédits ou le perso à tout le monde, mais faut pas non plus, tu vois, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, tout le truc est calibré pour que tu sois obligé de payer pour avoir le perso, ils vont pas te le filer gratuitement.
Ou alors ils pourraient ne rien faire.
Ils pourraient ne rien faire aussi, c'est vrai. Bon bah écoutez, on va passer aux news qui restent, les dernières news, oui c'est ça, les petites news avant de conclure l'épisode. Need for Speed Unbound a été révélé, il sortira le 2 décembre. Alors c'est un nouveau Need for Speed, hein, c'est peut-être pas le truc le plus révolutionnaire de l'histoire. J'aime bien ce qu'ils font au niveau du design graphique du jeu. C'est un Need for Speed qui a des graphismes Need for Speed. Entre parenthèses, il sortira que sur console next-gen. Enfin, next-gen, current-gen maintenant, PS5, Xbox Series. Et c'est des graphismes classiques Need for Speed, sauf qu'en plus, il y a des tonnes d'effets genre graffiti, mais en jeu. Genre la fumée, c'est une fumée qui a l'air dessinée. Il y a des petits effets de graffiti qui apparaissent quand tu fais un boost, quand tu dépasses un ennemi. Enfin,
ouais, ça fait un peu penser ça fait un peu penser à la DA Street Fighter des derniers Street Fighter.
Un petit peu, ouais, un petit peu. Qui est. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est vraiment intégrée au jeu, tu vois, mais dans le jeu. Sur Street Fighter, on voit un petit peu comment ça peut se réaliser. Là, je trouve que c'est une approche qui est relativement originale, quoi. Mélanger vraiment la 3D et une 3D classique et une 3D cel-shaded qui donne cet aspect BD presque.
Ouais, c'est chouette.
Je trouve que ça fonctionne. Fonctionne pas mal. C'est pas après bon le jeu, on sait pas s'il sera bien. Annoncé maintenant, sorti le 2 décembre. J'ai l'impression que c'est un cycle marketing qui veut dire qu'ils croient pas forcément beaucoup en leur jeu. Mais je suis peut-être mauvais. C'est rare. Quoi d'autre? Evercore Heroes. Alors c'est des anciens de Riot et Blizzard qui lancent une sorte de MOBA. Et franchement, comme le dit Gamekult, pour lancer un MOBA aujourd'hui, il faut avoir les coronesses, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont. Alors visiblement, c'est des équipes de 4 et il y a des mécaniques MOBA et des mécaniques de genre de PVE, donjon raid inclus. Donc c'est peut-être un PVE VP, donc pas tout à fait un MOBA. Ce qu'on voit des images en jeu semble indiquer que c'est un petit peu différent des MOBA habituels, mais ça a l'air quand même assez proche de mécaniquement en tout cas du truc. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est juste pour leur filer un petit coup de main. Les pauvres, lancer un MOBA aujourd'hui, mais vraiment, ils vont avoir besoin d'un gameplay impeccable, quoi.
C'est clair.
Evercore Heroes. Oh là, pardon, ça fait du bruit dans mes oreilles. On rappelle dans la chatroom que c'est le lancement de PlayStation Stars en Europe. C'est, vous savez, le programme de fidélité où on peut gagner des objets numériques qui rappellent l'histoire de PlayStation. Genre, si tu joues à tel et tel jeu, tu vas avoir un petit, je sais pas, un avatar PlayStation 4 ou des petits objets comme ça dans ta collection. Je suis... Voilà, c'est ce que ça m'évoque.
C'est les restes de des semaines passées qui...
Ouais, c'est aussi le PlayStation Stars, tu vois, je suis pas sûr. quelques chiffres, tiens. On dit des crédits aussi, Sienne, des crédits genre pour utiliser dans le store. Genre, ils te filent des sous si tu es super méga PlayStation starifique. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi un truc qui était controversé, c'est un accès privilégié. Si tu atteins genre le niveau de fidélité 4, tu as un accès privilégié au customer support. Là, on te, à la limite, pourquoi pas, si t'es un gros gros joueur, on te résout tes problèmes plus vite que les autres. Bon. Saints Row a vendu 1 million de jeux. Moi, je trouve ça dingue. Saints Row qui a été, genre, il a eu quoi, 6 sur 10 partout dans le monde.
Ouais, c'est vrai que c'est incroyable, quoi.
Alors, c'était un gros morceau, ils ont mis le paquet au niveau marketing et tout, mais je suis surpris qu'un jeu aussi... c'était peut-être les fans de Saints Row qui se sont dit « Ah bah, je vais le tester, machin. » Ouais, c'est ça, c'est 63 sur OpenCritic.
Pas fou. Bah, écoute, moi, j'ai une connaissance donc de Super Game... Enfin, un ami même de chez Super Gamerside qui y a joué, et il nous disait qu'il voulait absolument en parler parce qu'il s'était éclaté sur cet épisode-là, quoi. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Alors, je peux pas te dire quoi, parce qu'il nous en a toujours pas parlé, mais... il semblerait... Il y a un engouement, effectivement. Ouais, ça fait partie de ces licences... quand ça sort, ça paye pas de mine. Enfin, tu miserais pas dessus. Mais ouais, là, il se passe quelque chose.
J'ai l'impression que c'est une licence où il faut, enfin, un jeu pour lequel il faut savoir ce que tu vas aller chercher. Genre, si tu veux un super jeu qui va te mind-blower et qui va devenir le GOTY de l'année, c'est peut-être pas le jeu pour toi.
Plutôt Immortality, quoi.
Par exemple. Mais si tu veux juste un moment fun spécifiquement dans le délire de la ville ouverte où tu vas faire ton trip, peut-être qu'il va être tout à fait satisfaisant pour ça. Bon, il y aura aussi un gros patch pour résoudre les problèmes au lancement qui était un autre souci sur le jeu. Et FIFA a fait le plus gros lancement de son histoire, FIFA 23, avec 10 millions de joueurs. C'est particulièrement intéressant parce que vous vous souviendrez peut-être que c'est le dernier jeu FIFA de EA. L'année prochaine, ça sera plus sous le nom FIFA. Et ça, je suis toujours très curieux de voir comment ils vont gérer ça, mais ça sera FIFA... Non, ça sera EA Sports Football FC, Sports FC, EA Sports FC Football Club, c'est ça, truc du genre. Très curieux de voir comment ça va fonctionner, ça, parce que avec 10 millions de joueurs la semaine du lancement, FIFA est au plus haut de sa forme, et du coup, s'ils vont filer la licence à un autre développeur, à voir ce que ça va.
Ouais, ça sent quand même assez vendu que ce soit grâce ou à cause de ça que les gens se sont précipités dessus, non ? On dirait un peu un jeu de fin du monde, quoi, tu sais, pour tous les fans de la licence.
Allez-y.
Bah écoute, c'est l'impression
que ça
donne.
C'est possible que ça ait joué, ouais, c'est sûr. Call of Duty ne sortirait pas de gros épisodes en 2023, mais une sorte de DLC pour Modern Warfare 2, le jeu de cette année, un gros DLC. Donc intéressant ça comme plan, ça serait la première fois qu'il n'y aurait pas de vrai Call of Duty une année. Donc
tu vois comme quoi il ne faut vraiment pas que le Royaume-Uni s'inquiète avec sa commission anticoncurrentielle.
Enfin, hein. tu te souviens de Final Fantasy VII, The First Soldier ?
Alors oui, tout à fait. Je n'y ai jamais touché, alors que FF7, je pense que j'ai pu expliquer à personne que c'est une licence que j'aime beaucoup. Mais non, ça ne m'a jamais intéressé. Et j'ai vu la news passer, je me suis dit bon bah.
Du coup, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. En fait, Final Fantasy VII, The First Soldier, va fermer ses portes. L'annonce vient un an. Moins d'un an après le lancement du jeu. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est un jeu mobile, un Battle Royale dans l'univers de Final Fantasy, gratuit sur mobile. Donc, peut-être que c'est le moment de le lancer pour... Excusez-moi, je suis désolé. C'est... pour dire que vous y aurez joué, vous ferez partie des gens qui ont joué à Final Fantasy VII de First Soldier. Moi, je t'avoue que rien que l'idée de me connecter avec mon compte Square Enix, ça me fatigue. Mais,
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, j'avais oublié.
Ouais, donc bon, ça y est, je t'ai démotivé.
Il n'y aurait pas fallu grand chose. Hein. Je pense que les images que tu montres en ce moment suffisent à te dire que déjà, c'est peut-être pas un hasard ce qui est en train d'arriver et que bon, j'ai pas trop envie de me précipiter pour y jouer avant que ça ne disparaisse. Quoi.
Bon, bah écoute, Final Fantasy VII, The First Soldier fermera ses portes. Ah, vous avez un peu de temps, hein. Il ferme ses portes en. C'est quand ? C'est en janvier, je crois ? Le 11 janvier, voilà. Donc vous avez encore un petit peu de temps. Et puis, il y a des rumeurs d'un remake. remaster pour Bravely Default. Alors ça, c'est une news, je vous avoue, elle ne me torpille pas énormément. Mais surtout, c'est un remaster qui arriverait pour les 10 ans de Bravely Default. Et ça, je vous avoue que ça m'a torpillé parce que Bravely Default est sorti il y a 10 ans.
Ouais, j'avoue, c'est déjà...
Mais pour moi, Bravely Default, c'est, tu vois, il y a 3-4 ans, quoi, un truc comme ça, avec le premier jeu en 2D HD, c'est il n'y a pas si longtemps, que, bon, peut-être que j'exagère, allez, 5-6 ans, tu vois, mais non, ça fait 10 ans.
Ouais, pour moi, c'est ça, c'était peut-être 2016-2017, j'avais pas l'impression que c'était aussi vieux. Est-ce qu'il n'y a pas eu des histoires de portage, de choses comme ça, qui feraient que c'est arrivé chez nous un peu plus tard et...
Bah, il y a eu le faux 2, le 1,5, puis il y a eu le vrai 2, et puis il y a eu tous les jeux en 2D HD qui portaient cet héritage, mais non, je crois pas, j'ai l'impression que... Bon, bref. Enfin, clairement, ça fait 10 ans qu'il est sorti, hein, donc...
Ouais, et après, bon, encore une fois, là, l'intérêt de faire un remaster, je sais pas, à moins que le jeu soit vraiment affreux aujourd'hui. Écoute, sur les plateformes telles quelles, quoi, mais... Puis moi, surtout, juste après le 2, quoi, enfin, je...
Franchement, Bravely Default, c'était un jeu qui est sorti sur 3DS, et je peux tout à fait imaginer qu'un portage PC, tu vois, il pourrait... Parfaitement bénéficier d'un remaster. Parce que DS, c'est quoi la résolution des jeux DS, c'est 102 par 92, tu vois.
C'est
j'exagère, mais à peine, c'est genre 300 par 200, enfin, c'est ridicule. Donc, bon, écoute.
Oui, oui, on verra. Ouais, vu comme ça.
On me dit qu'il faudrait une emote Patrick Bay sur Twitch. Je pense que ça serait une excellente idée. Patrick Bay, Patrick Tous, ce genre de choses. Vous vous souvenez que avec Stadia, on avait la crainte que les longues heures de jeu soient perdues à jamais. Eh bien, différentes sociétés commencent à se pencher sur la possibilité de transférer les sauvegardes sur d'autres services, et c'est notamment le cas de CD Projekt. Donc, Cyberpunk 2077, entre autres, pourra être.
Je suis désolé.
Je fais de mon mieux d'habitude, mais là c'est compliqué. Donc les gens qui ont beaucoup joué à Cyberpunk pourront transférer leurs souvenirs d'ailleurs. Ubisoft fait de même. Donc ouf, tout va bien. Le Steam Deck, je sais que tu rêves d'acheter un Steam Deck depuis des mois. Eh bien,
ne va pas me dire que je vais pouvoir le faire.
Écoute, Eska, tu vas pouvoir le faire. Pas besoin de réservation, livraison, genre une semaine. Tu vas pouvoir te précipiter sur ton Steam Deck.
Sur tous les modèles ou...
Écoute, oui, je crois bien que c'est sur tous les modèles. Ils ont
incroyable
à résoudre leurs problèmes. Et puis, il y a un peu moins de demandes, peut-être. Je veux dire, les gros fous qui le voulaient tout de suite ont été satisfaits, ils les ont eu enfin. Enfin, ça fait presque un an qu'il est sorti quand même. C'était quand? C'était en mars, février.
C'est vrai, ça fait si longtemps que ça.
Bah oui, je crois, ouais.
Mmh. Bon, février-mars, ouais, bon, ça fait un peu plus de 6 mois, on va dire, mais...
C'est ça. Attends, on est quand?
On est début octobre.
Ah oui, ok, donc ça fait un peu plus de 6 mois, très bien. Je sais plus compter. Celui qui s'est compté, c'est Chris Pratt. Il compte les dollars, les centaines, les milliers de dollars, les millions de dollars. Oui, ça a dû être au moins des millions.
Sûrement.
Tu as entendu sa voix de Mario? On l'entend dans le premier trailer de Mario qui a été diffusé la semaine dernière. On entend quelques secondes de Chris Pratt qui fait Mario. Est-ce que tu
peux... Il faut savoir que c'est lui, hein.
Ou pas? Pardon?
Non, pas du tout. Moi, je trouve que je le trouve assez cool, ce trailer. Bah, je dis, il faut reconnaître que c'est sa voix. Enfin, c'est comme Jack Black qui joue Bowser.
Ouais.
Ok, quoi. Enfin, sur quelques secondes de trailer comme ça, pourtant, c'est deux acteurs que je connais bien et que j'écoute en VO depuis des années, en particulier Jack Black, Teenage Fuzzy pour les plus connaisseurs du chat. Bon, ok. Mais le trailer, moi, je le trouve chouette. Il me fait envie. Je trouve que... Tu sais, il y a un petit peu un esprit Lego The Movie.
J'ai l'impression,
ouais. Je trouve dans l'approche qui, moi, me plaît beaucoup. C'est-à-dire, ça se prend pas au sérieux. Il y a un côté un peu quatrième mur. Et en fait, ça me surprend parce que je me disais, un film Nintendo avec une licence comme celle-là, on aurait pu avoir peur que ça se prenne trop au sérieux. Et je trouve que là, ben, moi, ça me fait envie, en tout cas. Ça me fait plus envie que quand j'ai vu les premiers trailers de Sonic, tu vois.
Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Là, c'est vraiment ce qu'on pourrait imaginer d'un film Super Mario assez... Comment dire, c'est le genre de truc que j'imaginais quand j'étais, ou que j'aurais pu imaginer quand j'étais plus jeune, en me disant qu'est-ce que ça pourrait être un film Super Mario. Ben, c'est un film d'animation avec effectivement les personnages de Mario qui font des trucs de Mario, quoi. Donc non.
Je trouve qu'il y a un petit décalage dans la DA, c'est-à-dire que l'aspect des personnages ne ressemble pas exactement à ce qu'on a dans les jeux, on va dire les plus grosses licences officielles, dans un Mario Odyssey ou ce que tu veux. Et pourtant, je trouve qu'on les reconnaît, bien forcément, mais enfin, c'est pas.
Ils sont proches quand même. Hein. Je trouve pas qu'ils sont proches. Oui. Je trouve qu'ils sont super.
Ah si si, c'est très proche, mais c'est un peu différent. Et je trouve que cette légère différence n'est pas gênante. Je trouve que visuellement, elle est plutôt réussie. Là où, encore une fois, quand on se réfère au premier Sonic, heureusement, ils sont revenus dessus après. Mais je trouve que cette petite différence de direction artistique qu'ils ont mise reste cohérente et n'est pas gênante. Elle est plutôt jolie. Enfin, tu vois, dans les visages de Mario, là, tu le passes depuis tout à l'heure, ou même de Toad, on voit qu'il y a... En tout cas, on va dire que
c'est
visuellement,
moi, d'accord, ouais.
J'ai vu aucun jeu Nintendo qui avait cette DA-là précisément. Donc, ils ont essayé un petit peu autre chose, mais tout en restant fidèles. Ils ont été malins et c'est plutôt réussi, je trouve.
Je suis d'accord.
Donc non, moi je le sens bien.
Moi je le sens bien aussi. Écoute, on verra, je sais plus quand il doit sortir, mais on sera au rendez-vous. Et d'ailleurs, quand on parle de cinéma, il semblerait qu'on ait un festival de Cannes du jeu vidéo qui soit en préparation. La première édition serait en octobre 2023. Avec une remise des prix et puis un vrai événement sur 5 jours en 2024. Et là, vous dites, mais comment le Festival de Cannes, c'est comme le Tribeca Film Festival qui fait sa partie jeux vidéo, tout ça? Pas exactement. En fait, c'est pas du tout. J'ai l'impression que ça a rien à voir avec le Festival de Cannes du cinéma, le vrai. En fait, c'est des gens d'agences de com et enfin intéressés par le jeu vidéo qui veulent faire le Cannes Gaming Festival à Cannes, dans le Palais des Festivals, etc. Mais c'est pas le Festival de Cannes lui-même qui ouvre une section jeux vidéo. Écoutez, moi je trouve ça plutôt malin. Il cannibalise l'image du Festival de Cannes pour faire un truc de jeu, pourquoi pas.
Est-ce que c'est plutôt quelque chose, parce que tu sais, à Cannes ils font aussi le festival du jeu de Cannes, du jeu de plateau. Est-ce que c'est plus comme ça, un genre de petite Gamescom, ou est-ce que c'est un festival de Cannes un peu comme un Pégase mais avec
moi,
des moyens beaucoup
c'est un
plus
Pégase,
importants
hein. J'ai l'impression
d'accord.
que c'est vraiment une remise de prix. Alors d'ailleurs, comment ça va se coordonner avec les Pégases, je sais pas, parce que les Pégases, c'est déjà le truc officiel de l'Académie française du jeu vidéo, enfin de l'industrie. Je sais pas. Et comment ils vont décider tout ça? Est-ce qu'ils vont se limiter aux jeux français? Y a toujours une catégorie jeux étrangers, mais bon, c'est vraiment, en gros... ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que si il le faisait pas à Cannes dans le Palais des Festivals pour l'appeler Cannes Film Festival, je crois que personne en parlerait de cette nouvelle remise de prix de jeux vidéo.
Il y a des chances.
Donc c'est malin.
Il y a des chances.
C'est malin.
Oui.
Et enfin, oui, pardon.
Oui, non, mais oui, c'est comme tu dis, c'est malin. Et puis moi, je trouve que c'est, au final, c'est plutôt chouette. Enfin, encore une fois, faut voir comment ça va être fait, les moyens qui vont être mis en place, les gens qui vont animer ce festival de Cannes. Mais ça reste toujours une bonne nouvelle. Mais comme tu dis, la vraie question, c'est la concurrence avec les autres festivals qui se passent en France. Si au final, c'est pour que ça se tire la bourre un petit peu comme à l'époque quand il y avait eu les problématiques là, avec le SNJV et je sais plus, où il y avait une concurrence en interne et que tout le monde y perdait. Bon, faut voir comment ils vont réussir à se mettre d'accord et à... C'est un peu comme quand tu compares les festivals de Cannes, les Oscars, les Césars. Au bout d'un moment, tu sais plus trop quoi.
Bah, disons que Cannes, c'est le truc. Enfin, César, c'est l'industrie. Cannes, c'est le festival de Cannes, c'est à part. Et les Oscars, c'est américain. Donc,
oui.
C'est complètement autre chose. Mais
ouais. À voir.
Dernière chose, plein de Yakuza et de Assassin's Creed et de Dragon Quest dans le PlayStation Plus. Alors pour les extras, les Yakuza, c'est pour les premium. Mais si vous voulez jouer au Assassin's Creed, en particulier les versions 2.5D qui sont sorties, enfin il y a une trilogie, c'est China, India, Russia, auxquelles vous pouvez jouer. Il y a aussi Odyssey, Syndicate, il y a plein d'Assassin's Creed et des Dragon Quest. Donc si vous êtes abonné PlayStation Plus extra, il y a de quoi faire ce mois-ci. Et je pense que c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. On est arrivé au bout. Eska, grâce à toi, nous avons réussi à couvrir toute l'actualité. C'était incroyable, un moment merveilleux.
J'ai pas fait grand-chose à
mais
part...
Tu étais là et tu étais judicieuse. C'était très, très bien.
Oh, je te remercie. C'est bien aimable.
Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, du coup, sur Internet ?
Avec plaisir. Écoute, je suis en train de me dire que l'entrée en matière dans cette émission était aussi plaisante que la sortie de cette émission. Décidément, j'aurais pris mon content de choses agréables à entendre aujourd'hui. Je t'en remercie, ça me donne le sourire.
Tu sais, l'une des missions pour moi dans cette émission, c'est de faire passer un bon moment aux auditeurs, de les informer. Mais il y a aussi le fait que les co-animateurs passent un bon moment également. Donc, si ma mission est accomplie, j'en suis ravi.
Et oui, si on est là toutes les semaines, c'est que quelque part, tu dois bien réussir ta mission.
Et bah, écoute, de cœur à l'ouvrage.
Oh, merci, un plaisir. Partagé, bien sûr. Écoute, moi, on peut me retrouver sur Twitter, donc @escarina_, ici tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Super Gamerside, toujours pour les podcasts. Et puis, j'ai mon site Kiss My Geek, toujours en parallèle. Donc voilà, plaisir d'échanger avec tout le monde sur le chat ici ou ailleurs.
Donc Twitter, on mettra les liens vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission comme toujours. Pour ma part, c'est NotePatrick à peu près partout. Vous pouvez retrouver tous les liens sur notepatrick.com ou même simplement dans les notes de l'émission. Si vous voulez nous rejoindre pour discuter de toute l'actu sur le Discord, c'est très simple. Vous avez les liens dans les notes de l'émission. Si vous voulez regarder en live sur Twitch le jeudi midi ou le mardi midi pour le rendez-vous tech, vous pouvez faire ça directement. Vous retrouvez le lien dans les notes de l'émission. Et la semaine prochaine, mardi, si on réussit à le faire en live, vous risquez d'avoir les interventions du petit. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, bien sûr, Patreon, patreon.com/rdvjeu. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil pour voir si vous aimeriez soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Vous arrivez chez vous, ça fait clink. Quand vous mettez les clés dans le bol, clink. Et là, vous dites, Patrick, je vais aller sur patreon.com/rdvjeu. Merci à tous et à toutes. On se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.
Des bisous.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.